J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre, l'émission qui décrypte les enjeux globaux sur France Culture. Comme chaque mercredi, nous sommes ensemble et en direct de 14h à 14h56. Vous pouvez nous entendre sur les ondes et sur Internet pour ce rendez-vous géographique avec les chercheurs qui arpentent le globe. Alors aujourd'hui, puisque c'est le dernier mercredi en tous les cas où il est possible de le faire, une émission qui est un dernier écho à la COP21.
J'avais dit il y a déjà 2 mois que pendant les fêtes, personne ne serait privé d'essence. Vous constatez que c'est vrai. Eh bien, je vous dis de même qu'au lendemain des fêtes, et aussi longtemps qu'on puisse faire des projets, c'est-à-dire aussi longtemps qu'on puisse fixer les choses avec précision, disons pour un délai de quelques mois, jusqu'au printemps, il n'y aura pas non plus de privation d'essence. Il n'y aura pas de rationnement d'essence auto, en tout cas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'augmentation de prix. Parce que ça ne dépend pas de nous, vous le savez très bien.
1973, oui, c'était 1973. L'humanité est donc accro à cette ressource qui l'a fait carburer, l'essence, le pétrole. Le pétrole, en fait, c'est tout un monde intriqué dans le nôtre, avec sa nature, ses territoires, ses acteurs, son économie, sa société. Comme entendu dans cette archive sur le choc pétrolier, cette dépendance date. Ce choc de 73 commençait à déclencher la fin des Trente Glorieuses. Il a considérablement contraint l'économie du monde entier. Et pourtant, presque un demi-siècle plus tard, on n'est toujours pas sorti du pétrole. Alors aujourd'hui, autre époque, on se dit qu'un monde débarrassé du pétrole serait un monde débarrassé du changement climatique et de Daesh. Plus facile à dire qu'à faire, car le pétrole est partout et pas seulement dans les moteurs des autos. Pour en sortir, il faut donc comprendre comment fonctionne cette planète pétrole. Eh bien, vous le saurez aujourd'hui en écoutant Planète Terre. Après donc avoir été en écho à Pierre Messmer, Premier ministre de la France en 73, nous allons aujourd'hui, en 2015, et alors que la COP21 se termine, arpenter cette planète pétrole avec Thomas Porcher et Mathieu Ozano. Bonjour à tous deux.
Bonjour. Bonjour.
Mathieu Ozano, vous êtes journaliste, auteur du blog Oilman, un des blogs du site du journal Le Monde, un blog très, très, très suivi pour toute personne qui s'intéresse, bien entendu, au pétrole et à l'énergie. Vous avez publié en mars dernier, chez La Découverte, une monumentale histoire du pétrole qui se lit comme un roman, Or Noir. Thomas Porcher, vous êtes professeur à Paris School of Business, en bon français, exactement, enseignant à Paris Dauphine, et vous venez de publier Le déni climatique chez Max Milo, précédé de plusieurs ouvrages depuis 2009 sur l'économie du secteur pétrolier, dont un sur le mirage des gaz de schiste. Alors ma première question est toute simple. On a eu cette évocation des années 1970, comme quoi nous étions très dépendants du pétrole, en tous les cas les sociétés dites occidentales. On peut avoir le sentiment, un demi-siècle plus tard, que c'est le monde entier qui est très dépendant. Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que, dans la réalité, il faudrait un peu nuancer cette réalité ? Thomas Ozano. Mathieu Ozano, pardon.
L'addiction de l'humanité au pétrole et aux énergies fossiles carbonées de manière générale, c'est-à-dire le pétrole, le gaz naturel et le charbon, n'a pas tellement évolué. Là, même dans un certain sens, elle s'est aggravée puisque par rapport à 73, on consomme 80% de l'énergie qui est consommée dans le monde, c'est du gaz, du pétrole ou du charbon.
La proportion fossile donc
épuisable. La proportion est la même, sauf qu'entre-temps, la consommation mondiale a énormément augmenté. Donc non seulement l'addiction est toujours là, mais elle s'est aggravée.
Cette addiction, Thomas Porcher, bien entendu, on pense spontanément au transport Mais dans quel autre secteur de l'économie et de la vie sociale se décline-t-elle ?
Bon, elle est quand même principalement située dans les transports, dans l'industrie. Alors c'est vrai que chez nous, enfin c'est vrai comme tu l'as dit, au niveau mondial, il y a une consommation qui a augmenté fortement. Le bilan énergétique n'a pas bougé, comme tu l'as dit. Et la consommation de pétrole a augmenté fortement. Ces 10 dernières années, on a rajouté une dizaine de millions de barils sur le marché pétrolier par jour. Donc il y a... Donc effectivement, on consomme beaucoup plus d'énergie fossile qu'avant. Mais dans les pays riches, on est passé d'un secteur industriel extrêmement élevé à un secteur tertiaire. Et c'est vrai qu'avec la tertiarisation, par unité de PIB, on va dire, on consomme un petit peu moins de pétrole que les années précédentes. Et aujourd'hui, ce sont les émergents qui en consomment aussi beaucoup plus. Mais après, bon, on peut débattre de tout ça, parce que c'est vrai que les émergents ont beaucoup d'industries, mais c'est des industries aussi qui sont les nôtres, qui nous envoient des produits que l'on consomme chez nous. Donc on pourrait dire qu'après, au final, d'un point de vue global, si on prenait la somme de toutes les consommations de pétrole, ça augmente très fortement et c'est pas prêt justement de changer.
Et donc vous dites que c'est vraiment le transport, mais on pense aussi peut-être à tort aux médicaments.
Oui, à tous les dérivés, les plastiques, etc.
Et ça, c'est très important dans l'industrie.
Oui,
ça n'a pas baissé par rapport aux années 70. Oui,
vas-y, je t'en prie.
Thomas Porcher.
C'est vital pour le fonctionnement technique de notre société. Pour le marché pétrolier en lui-même, l'essentiel va dans les réservoirs d'essence. Mais si on pense à l'ensemble des produits pétroliers, même si c'est une petite fraction du chiffre d'affaires pour l'industrie pétrolière, par contre, ça nous rend des services incommensurables. Je suis en train de parler dans un dérivé de pétrole, mes coudes sont appuyés sur cette jolie moquette qui est probablement un dérivé de pétrole, etc., etc. C'est important pour l'industrie pharmaceutique, c'est très important. Il faut pas le perdre de vue, c'est peut-être même l'addiction la plus problématique. C'est très important pour l'agriculture. Les agronomes ont l'habitude de dire aujourd'hui que l'agriculture moderne est devenue une technique qui permet de transformer du pétrole en nourriture. Tout simplement parce que les niveaux faramineux de productivité qu'on a pu atteindre ont été atteints parce qu'on avait sous la main cette source d'énergie abondante et pas chère.
Juste en première instance, il n'est que 14h07, mais rien qu'avec ce très rapide panorama que vous venez de dresser l'un et l'autre, Mathieu Ozano et Thomas Porcher, on a effectivement l'impression que même si on voulait politiquement sortir d'une économie pétrolière dans les 5 années qui viennent, ça a l'air impossible, et j'ai bien conscience de dire ça, alors que le projet de déclaration finale de la COP21 nous est annoncé pour 15h30, Thomas Porcher.
Oui, sortir 100%, c'est impossible, je pense. Sortir 100%, enfin, moi, je pense, c'est impossible. En tous les cas, on en est loin, et ça se fera pas du jour au lendemain. Alors, faudrait commencer déjà par aller à la source du problème, arrêter de subventionner les énergies fossiles, parce qu'elles sont massivement subventionnées à l'échelle mondiale.
On en parlera.
Il y a 4700 milliards d'euros qui vont aux énergies fossiles, donc il faudrait arrêter de les subventionner. Il faudrait gagner des gains d'efficacité énergétique sur le transport. Faudrait arrêter une consommation de masse de biens. Enfin, il faudrait vraiment changer faudrait aller au cœur du modèle et changer ce cœur du modèle. Et là, on pourrait faire des efforts énormes en efficacité énergétique, consommer moins d'énergie fossile, donc moins de pétrole. Et je pense qu'il y aurait un effet d'imitation très fort si les pays riches faisaient ça, de la part des pays émergents et des pays pauvres. Et donc là, on aurait déjà fait un immense, parce qu'on n'en est pas du tout, un immense pas. Or, quand on regarde les bilans énergétiques que l'on a sur les 10, 15 dernières années, malgré tous les développements des énergies renouvelables que l'on entend, les bilans énergétiques n'ont pas beaucoup changé, et donc on est encore très dépendant des énergies fossiles.
Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Thomas Ozano? Mathieu Ozano, excusez-moi, ça fait deux fois que je fais ce lapsus.
Des relations entre Thomas et Mathieu.
Oui, on a bien entendu que vous étiez très proches l'un de l'autre, ce que j'ignorais d'ailleurs en vous invitant de manière séparée.
Comment on est arrivé là parce que
c'est un peu l'histoire que vous racontez dans Hors Noir.
Le pétrole s'est offert en tant que source d'énergie abondante, pas chère, malléable, polymorphe, s'est offert à un moment clé de l'essor de l'humanité technique. Je dis qu'il s'est offert parce que si on parle de cette industrie du pétrole qui est la plus riche du monde, c'est parce que les coûts de production pétroliers sont très très faibles. Jusqu'à une date récente, il suffisait de faire en quelque sorte un trou dans le sol et vous aviez une fontaine de jouvence ou une source d'abondance. C'est pour ça qu'on parle d'or noir. Voilà. aujourd'hui, toutes les alternatives, quand on parle de transition énergétique, toutes les alternatives sont nécessairement, puisque nous sommes allés cueillir ce fruit, ce beau fruit à portée de main qu'était le pétrole, toutes les alternatives sont plus chères, plus compliquées. Voilà. Ça, c'est un premier problème. Et l'autre racine du mal, si on peut parler comme ça, c'est que il y a du fait que l'énergie est au cœur de l'activité économique, et son abondance est nécessaire pour l'expansion économique, il y a une relation, il y a une intrication profonde entre la quantité d'énergie que vous pouvez mettre dans le carburant de la grande machinerie industrielle mondiale et ce que cette machinerie est capable d'accomplir. Autrement dit, il y a un lien pratiquement proportionnel entre la croissance économique mondiale et la consommation mondiale d'énergie, de pétrole. Et tant que on met en prérequis, c'est un problème politique, tant qu'on met en premier prérequis cette idée d'expansion et de croissance comme alpha et oméga de toute politique économique, il y aura, à mon sens, pas de transition énergétique. La transition énergétique, c'est fondamentalement, comme l'a dit Thomas, une question d'évolution des modes de vie. C'est une question de sobriété. Il n'y aura pas de réponse fondamentalement technique à ce problème-là. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction.
Je suis entièrement d'accord. Alors là, je suis entièrement d'accord à 100%. En plus, j'ajouterais juste une chose à ce qui a été dit, c'est que vraiment le prix actuel du pétrole, ou même le prix passé, hein, mais actuel, il est très bas, ne représente absolument pas les enjeux. Le signal prix comme un marché devrait fonctionner, il n'est pas là. Aujourd'hui, le prix du pétrole, c'est l'offre et la demande de court terme. Jamais on a pris en compte dans les prix, même si théoriquement ça avait été réfléchi, mais jamais on a pris en compte l'épuisement des réserves qui devrait être prise en compte, et puis maintenant la contrainte climatique.
Mais vous dites « on », c'est qui « on » ?
« On »,
c'est le marché.
Le marché, les opérateurs financiers, les consommateurs, les producteurs, etc. Donc on a finalement un prix qui ne reflète absolument pas ce qu'il devrait refléter.
Et comment ça se fait, ça?
Parce que cette énergie s'est offerte. Jusqu'à une date récente. Mais on peut résumer comme ça, on peut brosser l'histoire et de l'expansion pétrolière et de l'expansion économique tout court à travers pratiquement le prix du pétrole. Jusqu'au choc de 73, avec Pierre Messmer que vous passiez tout à l'heure, jusqu'au choc de 73, les pétroliers étaient obligés de s'entendre entre eux pour fixer un prix qui ne soit pas trop bas. Tellement cette énergie était surabondante, y compris par rapport aux besoins. Durant toutes ce qu'on appelait les 30 glorieuses, on voit la consommation de pétrole et, de manière parallèle, la croissance économique mondiale partir en exponentielle. Parce que c'était donné, littéralement. Cette source d'énergie fabuleuse était donnée pour tout le monde.
Dans les pays industrialisés, parce que dans les pays en développement, ça n'avait pas l'air d'être vraiment donné pendant ces années-là.
Si, ça a énervé toute l'activité, toute l'expansion économique est innervée nécessairement d'énergie, puisque tout phénomène est énergétique. Si, quelle que soit l'activité économique que vous voulez faire, il faut que vous ayez une ressource énergétique adéquate. Maintenant, les choses sont un peu en train de changer et on commence à parler d'un prix du carbone, ce que disait Thomas, c'est-à-dire que on va commencer à donner peut-être le vrai prix environnemental et non plus strictement économique. C'est-à-dire qu'à travers cette notion de prix du carbone, on fait le chaînon manquant entre deux mots qui sont si loin, si proches que sont écologie et économie.
Certes, sauf que pour l'instant, en tout cas depuis 2008, le prix du pétrole est à nouveau à la baisse. Il est à nouveau bas, vous le rappeliez à l'instant, Thomas Porcher. Alors qu'on a pu avoir l'impression dans toutes les années 2000 que finalement, on était enfin sur un prix du pétrole correspondant à sa rareté de plus en plus grande. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne soit plus le cas? Et si vous pouvez, en passant, Thomas Porcher, nous expliquer un tout petit peu, justement, quels sont les acteurs de cette filière? Parce qu'en gros, vous nous dites, il y a un prix qui ne correspond pas au marché et c'est lié aux acteurs de la filière. C'est quoi la mécanique?
Je vais revenir, je vous explique ça, mais je vais revenir juste sur une chose là qui a été dit. Exactement, c'était une énergie qui demandait qu'à sortir, un pétrole qui demandait qu'à jaillir. Il y en avait énormément, mais il était extrêmement inégalement réparti.
C'est très important.
Donc il y en avait, 80% des réserves qui étaient dans une quinzaine de pays, comme toutes les matières premières d'ailleurs. Le charbon, c'est 80% des réserves dans 6 pays, et le gaz, c'est plus de 50% des réserves dans 3 pays. Donc c'est des choses qui sont inégalement réparties, mais effectivement, il y en avait suffisamment pour tout le monde. Au moins pour ceux qui se développaient le plus vite, parce que la consommation de pétrole est liée directement, comme vous l'avez dit, pratiquement de manière symétrique à la croissance économique. C'était une parenthèse. Pour le prix du pétrole, alors pareil, il a augmenté pendant très longtemps. C'est quand ça a augmenté entre 2000 et 2010 que ça a été multiplié par 5, grosso modo, le prix du pétrole, qu'il est passé de 20 à plus de $100. Certains ont dit, oulala, attention, là, vraiment, on rentre dans ce qu'on appelle la rente de rareté, c'est-à-dire l'épuisement des réserves, et le prix intègre cet épuisement des réserves. Alors, il y a un gros débat là-dessus, hein, là, on pourra peut-être en discuter, mais les opérateurs financiers, celui qui le déterminait, le WTI et le Brent, se basaient sur...
C'est quoi le Brent, c'est les
deux barils de référence des prix du pétrole au niveau mondial, hein, parce qu'après, il y a plein de barils de référence par pays, mais là, c'est les deux de référence au niveau mondial. Et ces opérateurs...
Qui sont fixés où?
Il y en a un qui représente grosso modo l'Europe et un les États-Unis qui dépendent des opérateurs de marché qui regardent uniquement, encore une fois, l'offre et la demande de court terme. Et quand ils regardaient cette offre et demande de court terme au jour le jour, ils la regardent, on voyait qu'il y avait quand même une augmentation très forte de la demande des pays émergents à partir de 2004,
la Chine,
l'Inde. Et c'est ça qui s'est ajouté à notre demande à nous et qui a fait que le pétrole a augmenté. Sur les marchés purement financiers, je parle. Donc ce prix a augmenté.
Donc c'est Londres, concrètement
Le Brent.
Fixé à Londres.
En Europe, à Londres, et le WTI aux États-Unis. Et ça, il a augmenté, il a été multiplié par 5. Et ce qui a fait le basculement à partir de 2014 de ce prix de plus de $100 à $50, c'est encore les fondamentaux et c'est l'offre qui, cette fois-ci, a dépassé la demande qui, elle, commençait un petit peu à moins croître rapidement. Et cette offre, notamment, qui a dépassé la demande, est due principalement au développement des pétroles de schiste américains.
Ah, les pétroles de schiste américains. Donc, finalement, c'est encore un grand retour de la géopolitique qui explique...
Elle est constamment présente dès qu'on parle d'enjeux énergétiques. Aujourd'hui, on a quand même un grand nombre d'éléments qui permettent de nous dire que la guerre de 2003, l'invasion par les États-Unis de l'Irak en 2003... Il y avait des arrière-pensées qui avaient trait à l'exploitation des ressources fabuleuses de pétrole de l'Irak. Pour ce qui est de l'effondrement des cours du baril aujourd'hui, je pense que le niveau extrêmement élevé, sans précédent, des cours du baril de 2000, pour faire simple, de 2010 jusqu'à l'automne 2014, ont eu un effet de sape sur la rentabilité de tout un tas d'activités économiques, qui a pu être compensé par la politique d'argent facile de la Banque centrale américaine. Il y a un lien très net entre cette politique et les cours du baril. Et du jour où la Fed a commencé à ralentir la rotation de la planche à billets, on a vu non seulement les cours du baril, mais également de la plupart des grandes matières premières industrielles s'effondrer très rapidement. Donc, dans un premier temps, on a pensé que cet effondrement des cours du baril, c'était un phénomène de l'offre, comme vous disiez, les pétroles de schiste, c'est-à-dire une surabondance du côté de l'offre. En réalité, il s'avère que c'est plutôt un phénomène qui a trait à la demande, c'est-à-dire au ralentissement relatif de la croissance de la Chine. Je fais partie des gens qui regardent ça et qui considèrent que on a très probablement largement sous-estimé le rôle de la quantité de carburant que vous pouvez mettre dans la machinerie économique vis-à-vis de l'activité économique. Donc, je pense que, on pourrait en parler, ça serait très intéressant. Je pense que la crise de 2008, en particulier, dite crise des subprimes, est fondamentalement, ou en tout cas en très large partie, un choc pétrolier.
Vous en pensez quoi, Thomas Porcher ?
Je suis pas. Bon, on peut en discuter, mais je suis pas entièrement.
Discutons-en.
Enfin, sur la demande, je suis d'accord avec vous, là. Sur le lien de la BCE, c'est que c'est très clair. Hein. C'est vrai que la BCE, en fermant les robinets, augmente la valeur du dollar. Et comme vous avez un gros.
La Fed, vous voulez dire ?
Voilà. Oui, pardon, la Fed.
La Banque centrale américaine.
Voilà.
Hein.
La Fed, en coupant les liquidités, elle augmente le dollar. Et comme vous avez tout un tas de pays émergents qui s'endettent en dollars, vous avez leur dette qui explose mécaniquement et qui pèse sur leur rentabilité. Et donc, ça crée moins de demandes et au final, moins de demandes pétrolières. Donc, il y a un lien complet avec les banques centrales, effectivement. Et la baisse des prix du pétrole, même s'il faut quand même ajouter de l'autre côté que les États-Unis ont mis 3 millions de barils en plus sur le marché, mais que s'ils avaient une demande stimulante comme entre 2000 et 2010, comme tu le dis, là c'est clair que le prix ne serait pas descendu aussi bas et on serait probablement à un prix qui serait encore au-dessus de $100, ou autour de $100, sûr.
Alors attendez, si je vous comprends bien l'un et l'autre, Mathieu Ozano et Thomas Porcher, vous êtes en train de nous expliquer que contrairement à ce qu'on croit comprendre depuis quelques années, c'est pas en raison de la production devenue très importante de gaz de schiste ou de pétrole de schiste aux États-Unis, que le prix du pétrole baisse. Donc,
alors pour moi, c'est les deux.
C'est les deux.
Mais il faut, parce que les gens ont tendance, et là il a raison, c'est pour ça que tu as raison de le rappeler, Mathieu, les gens ont tendance à ne regarder que du côté de l'offre en disant les États-Unis ont réussi uniquement grâce au pétrole de schiste à faire baisser les prix, les diviser par deux. Or, il y a eu quand même un phénomène sur la demande. Voilà,
dû justement aux centrales. Et puis si on dézoome un petit peu la situation, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre à l'échelle historique et puis pour notre avenir en tant que société industrielle dépendant directement de cette ressource qu'est le pétrole. Il faut comprendre que depuis 2005, c'est-à-dire juste avant la crise de 2008, et il y a, à mon sens, un lien, la production de ce qu'on appelle le pétrole conventionnel, c'est-à-dire le pétrole liquide classique, ne croît plus.
Donc on aurait atteint le fameux pic pétrolier.
On est sur un plateau de production pour ce pétrole conventionnel qui constitue les 4/5 de l'offre. Et tout ce qui s'est ajouté depuis, ce sont ce qu'on appelle les pétroles non conventionnels, donc ce sont des pétroles non conventionnels et extrêmes, c'est-à-dire ce sont des pétroles qui sont plus chers, plus compliqués à exploiter. Le pétrole de schiste étant le meilleur exemple de ça, qui est une grande surprise pour l'industrie.
Et donc il faut dépenser beaucoup d'énergie pour en produire un peu.
Voilà, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que notre monde, et nous sommes sur une planète sphérique et donc sur un monde limité, et qu'on a les outre un certain nombre de ressources comme ça, nouvelles, mais qui ne constituent qu'un. Aujourd'hui, les pétroles de schiste, c'est 3 millions de barils jour sur une production mondiale qui est de 90 millions de barils jour. Et on sait que dans un grand nombre de régions, la plus proche de nous, on en a une sous les yeux, qui est la mer du Nord, l'Algérie, et dans ce cas-là également, la production décline pour des raisons bêtement physiques et géologiques. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous videz un verre d'eau, au bout d'un moment, ce verre, il est vide. Voilà. Et la situation aujourd'hui, c'est que les pétroliers doivent compenser le déclin d'un certain nombre de ressources pétrolières abondantes et pas chères, qu'on appelle le pétrole conventionnel, par des pétroles plus chers. Et pour donner vraiment l'ampleur du défi, ce qu'on appelle le déclin naturel d'un certain nombre de champs pétroliers en mer du Nord, en Indonésie, au Gabon, etc., ça représente... Si vous arrêtez d'investir aujourd'hui, la production mondiale sera divisée par 2 en 10 ans.
Alors précisément, arrêtons-nous un instant sur cette question de l'investissement. Vous vous souvenez peut-être tous, et vous deux en particulier, Mathieu Ozanneau et Thomas Porcher, que le 30 novembre dernier, à l'ouverture de la COP21, Barack Obama a parlé de la relation entre les énergies fossiles et le changement climatique.
Je suis devant vous, personnellement, comme le chef de la plus importante des économies pour dire que les États-Unis reconnaissent leur rôle et la responsabilité dans l'émergence de ce problème. Nous reconnaissons nos responsabilités et nos responsabilités pour agir. Depuis 7 ans, nous avons fait de grands investissements dans les énergies propres. Nous avons multiplié par 3 l'énergie éolienne, par 20 l'énergie solaire. Nous sommes arrivés à un stade où l'énergie propre va devenir moins chère que l'énergie sale.
Je voudrais maintenant vous faire écouter l'analyse proposée ce matin à 7h35 par Marie Viennot de la rédaction de France Culture.
Si on veut rester dans la limite des 2 degrés de réchauffement, on ne peut pas dépasser 565 gigatonnes d'émissions de CO2 d'ici 2050. Or, les gisements de combustibles fossiles actuellement exploités ou en passe de l'être représentent plus de 5 fois ce chiffre-là. Donc, pour ne pas dépasser notre budget carbone, il faut donc laisser 80% de ces combustibles dans le sol. Lucie Pinson, des Amis de la Terre.
À aucun moment, les négociations internationales n'abordent la question des financements vers les énergies fossiles. Seuls les financements vers les énergies renouvelables et surtout pour l'adaptation des pays du Sud sont évoqués. Et à aucun moment, on ne parle énergie fossile ou la part noire des financements qui aggravent la crise climatique.
Alors, vous en pensez quoi ? Le fait au lieu de désinvestir dans les hydrocarbures, on investit dans les énergies propres, mais vu ce que vous venez de nous expliquer tout à l'heure, ça a l'air très insuffisant.
C'est un peu pieux.
Ouais, mais enfin, on est d'accord avec ce qu'il dit. Il faut laisser une grosse partie de nos réserves prouvées sous terre et il faut aller
vers
les énergies. Non, on le fait pas. Non, c'est vrai, on le fait pas. Et les États-Unis sont loin d'être exemplaires. C'est quand même la première puissance, c'est la pays le plus riche qui a toutes les technologies. Elle n'a pas montré l'exemple. C'est quand même elle qui a mis en place la révolution des gaz de schiste et des pétroles de schiste, qui a été chercher des énergies non conventionnelles. C'est le Canada.
25 ans de retard à cause d'eux.
Voilà, voilà. Je veux dire, ils ne se sont pas engagés dans le protocole de Kyoto.
Alors, c'est qui les États-Unis ? concrètement, je reviens à ma question de tout à l'heure, c'est qui les acteurs
concrètement, l'industrie, il faut quand même rappeler, Barack Obama est un président fort sympathique, mais il faut quand même rappeler que l'industrie pétrolière a quand même peu ou prou mis la main sur la Maison Blanche pendant 8 ans, au terme d'une première élection qui a été quand même possiblement un petit peu volée sur les bords, une réélection à un moment d'union nationale autour d'une guerre qui était probablement une guerre du pétrole.
Là, vous parlez de George Bush Jr., là.
Oui.
Les deux élections dont vous parlez, c'est avant Obama.
2000-2008. Donc ça a été pendant la période... Alors, tous les présidents américains, disons, l'industrie pétrolière et toutes les industries qui fonctionnent avec elle sont majeures dans le fonctionnement de ce que c'est que le capitalisme américain. Je rappelle juste, et c'est un thème sur lequel je m'attarde beaucoup dans le bouquin que j'ai publié cette année, c'est que les deux grandes banques, qui sont en quelque sorte les piliers de Wall Street, la Chase Manhattan d'un côté, et ce qui est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui Citibank, aujourd'hui, ce sont deux banques Rockefeller. Autrement dit, deux banques qui sont issues et qui ont poussé sur les profits de la plus grande compagnie pétrolière mondiale, enfin occidentale, qu'on appelle Exxon, et qu'on appelait dans le temps Standard Oil, avec la compagnie de Rockefeller.
Alors, ces acteurs pétroliers, Thomas Porcher, c'est toujours les mêmes par rapport à l'époque que vient d'évoquer, fin du 19e, première moitié du 20e. Comment ça marche aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est très de manière mondiale, il y a des majors, et donc c'est très oligopolistique. Hein. Vous avez Exxon, Total, Shell, BP, même s'il y a il y en a peut-être une dizaine, grosso modo, qui ont quasiment l'ensemble du marché mondial. Hein, je veux dire, il y a très peu de gens. Enfin, après, il faut prendre les compagnies nationales aussi, également. Mais après, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de compagnies publiques ou qui ont des compagnies publiques qui sont juste des boîtes aux lettres. En Afrique, à part des pays de l'OPEP comme l'Angola ou le Nigeria, vous allez au Congo. Au Congo, c'est Total qui fait quasiment l'ensemble de la production et Agip. Donc, les compagnies qui dominent au niveau mondial, vous en avez une 10-15 en prenant les compagnies des pays de l'OPEP publics, peut-être 20 maximum. Donc, on est sur quelque chose d'oligopolistique. Même si maintenant, il y a eu encore une fois un changement dans le modèle depuis l'apparition des pétroles de schiste aux États-Unis, où on a vu finalement qu'aux États-Unis, ce sont des petites entreprises, des petites PME qui ont produit le pétrole de schiste. Et donc, il y a eu quand même un changement de structure. Mais il est vrai que, de manière générale, il faut le dire, hein, c'est que l'énergie de manière générale, est très oligopolistique, quoi qu'on en dise.
Alors, je voudrais ajouter un élément, c'est que le pouvoir reste dans les mains essentielles sur cette planète pétrole de ceux qui en ont le plus du pétrole. Autrement dit, sur cet échiquier, la pièce reine, ça reste l'Arabie Saoudite. On a très bien vu là dans cette espèce de contre-choc pétrolier qu'on est en train de vivre, consécutif à une envolée sans précédent du cours du baril, c'est la décision de l'Arabie Saoudite de ne pas fermer ses vannes qui a enfoncé le cours du baril mondial.
Donc, on a appris d'ailleurs hier, on est, si j'ose dire, en plein dans l'actualité, que la réunion de l'OPEP ayant décidé de ne rien faire, prix du pétrole est au plus bas.
On a une guerre des prix, c'est-à-dire que ce sont ceux qui détiennent les ressources pétrolières les moins chères à exploiter.
Donc c'est les pays du Golfe, ça.
Voilà, c'est ceux qui détiennent les plus belles réserves de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire du pétrole conventionnel. Les Saoudiens sortent leur pétrole, on estime, à quelque chose comme 5 ou 10 dollars le baril. Quand le baril, que les économistes appellent le baril marginal, c'est-à-dire celui que tu arrives à ajouter dans la production, les pétroles de schiste, eux sortent à 80, 90. Donc c'est un jeu complètement inégal, dans lequel, ultimement, malgré ce qui a pu être raconté dans la presse économique, notamment aux États-Unis, ultimement, les vrais patrons, ce sont ceux qui ont le plus, et c'est un phénomène du coup physique et écologique, ce sont ceux qui ont les plus belles réserves, et ceux qui ressortent le pétrole le moins cher, autrement dit, les Saoudiens.
Alors, est-ce qu'il faut comprendre que ce pic pétrolier, vous disiez tout à l'heure, on n'est peut-être pas encore au pic, en tout cas on est sur un plateau. Un plateau, ça sous-entend que ça peut rester comme ça longtemps, pendant plusieurs années.
À condition que les investissements soient là. Là, avec les fondements des cours du baril, on va probablement... On voit le Brésil aujourd'hui qui est entré dans une récession catastrophique. Au Canada, tous les projets sont arrêtés. Dans les pétroles de schiste, aux États-Unis, la production est entrée en repli. Autrement dit, avec un baril qui est de l'ordre autour de 50 dollars, disons... tous ces pétroles dont je parlais tout à l'heure, les pétroles non conventionnels, ne sont plus rentables. Donc, si vous arrêtez, l'industrie est en quelque sorte en train de courir sur un tapis roulant, le tapis roulant étant le déclin des champs anciens, en Iran, en Algérie, en mer du Nord, etc. Si les investissements ralentissent, ça implique une réduction de la production mondiale. Or, la demande, elle, pendant ce temps-là, elle ne faiblit pas. l'inertie du développement indien, du développement en Chine, je crois qu'on vend de l'ordre de 20 millions de véhicules avec des moteurs thermiques par an. Donc la demande de pétrole, elle n'est pas prête, tout simplement parce qu'elle a un lien intrinsèque avec ce que c'est que le développement jusqu'à présent.
Voilà. Mais alors, par rapport à ça...
Et la puissance.
Est-ce que ça veut dire, Thomas Porcher, que les sociétés humaines, actuelles, modernes, sont très vulnérables économiquement au pic pétrolier? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on a l'impression qu'on va dans le mur.
Même en dehors du pic pétrolier, parce que enfin, moi, je trouvais qu'on était très vulnérables au pic pétrolier, on va dire au début des années 90, etc. Ça m'intéressait énormément. Et maintenant, on est vulnérable, pic ou pas pic pétrolier, on est vulnérable puisqu'il y a la contrainte du réchauffement climatique. C'est-à-dire que même, enfin, l'histoire du pic pétrolier, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Faut la mettre de côté, même si on la met de côté, faut la remplacer par la contrainte aujourd'hui climatique. Même si on a du pétrole pour, grâce au pétrole non conventionnel ou grâce à des nouvelles technologies qui pourraient apparaître que l'on ne connaît pas ou grâce à autre chose, on pourrait avoir du pétrole pendant plus longtemps, il ne faudrait pas le consommer parce qu'il y a cette contrainte climatique de 2 degrés.
Oui, c'est ce que disait Marie Vigneault dans le.
Et c'est ça qu'il faut maintenant mettre au centre de notre système, qui n'est pas mis du tout, mais qu'il faudrait mettre, et les pays riches en priorité, je le dis bien, les pays riches en priorité, au centre de notre système énergétique. Et ce n'est pas le cas. Et encore, je veux dire, la preuve en est, c'est que l'Arctique fond à cause du réchauffement climatique. Et la première idée qu'on a eue, et quand je dis qu'on a eue, c'est l'ensemble des pays riches, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, la France, la Norvège, c'est d'aller voir s'il n'y avait pas du pétrole sous l'Arctique. Donc vous voyez, il y a une espèce de forme, comme je le dis dans mon livre, de déni climatique. On va vous dire, le climat c'est important, mais on ne le prend jamais en compte, ni dans les prix, ni dans les explorations, ni dans rien en réalité. Donc il y a une différence entre les mots, réellement, le consensus scientifique, et les actes qui ne suivent pas.
Alors, il y a peu de temps, c'était également le 30 novembre, jour de l'ouverture de la COP21, Alain Touraine était au micro de Laure Adler sur France Culture dans l'émission Hors Champ. Écoutez ce qu'il disait à propos du pétrole.
Ce produit que j'ai en horreur, qui produit des catastrophes partout, c'est le pétrole. J'ai vu l'arrivée du pétrole au Mexique en 76. Et ce pays que j'aime tellement, le Brésil, c'est maintenant qu'il s'écroule, alors qu'on nous disait toujours que Petrobras c'était merveilleux, alors que Pemex c'était de la pourriture. Eh bien, malheureusement, c'est de la pourriture des deux côtés. C'est-à-dire que l'économie non gérable, parce que ces pays n'ont pas le moyen de gérer les milliards de dollars que représente le pétrole partout dans le monde. Bon, ça c'est une chose qui dépolitise, qui rend les gouvernements eux-mêmes, au sens le plus fort du terme, pénétrés par le pétrole, pourris par le pétrole. C'est-à-dire que l'État ne se bat plus contre un ennemi extérieur, l'ennemi est à l'intérieur de l'État lui-même.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
Alors Alain Touraine ne mâchait pas ses mots donc ce 30 novembre dernier, Mathieu Ozanneau.
Il y a un des fondateurs de l'OPEP,
l'organisation donc des pays exportateurs de pétrole, hein.
qui a surnommé le pétrole la merde du diable. C'est une expression qui invite à beaucoup de méditation. Thomas Porcher, vous parlez d'un déni climatique.
Le déni, titre de son dernier ouvrage.
Le déni est un ressort psychologique terriblement puissant, mais fondamentalement, il me semble aujourd'hui que, à travers la question du climat, à travers la question de la transition énergétique, pratiquement l'humanité technique est un petit peu remise à sa place. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a considéré le progrès comme le fruit de la volonté humaine. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, que sans ressources en particulier, sans ressources matérielles de manière générale et sans ressources énergétiques en particulier, le progrès, l'idée de progrès demeure une chimère. Et je pense, j'arrive à la conclusion, je suis très pessimiste sur l'issue de la politique climatique au-delà de la COP21, il me semble que tout bêtement, quand on parle d'énergie, on parle de puissance, et que renoncer à sa puissance, c'est quelque chose que l'humanité, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle des firmes ou des États, est aujourd'hui, à part quelques poètes et quelques illuminés, rigoureusement incapable de faire.
Oui, mais est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est tout simplement très difficile de renoncer, ou en tout cas de ne pas aspirer à une vie matérielle tout simplement plus confortable, Thomas Porcher? Parce que vous disiez tout à l'heure, Thomas Porcher, que dans les années 2000, la consommation de pétrole et la hausse du prix s'expliquaient essentiellement par l'émergence de la Chine notamment, mais aussi des autres pays émergents comme l'Inde. Bon, c'est une aspiration, comment dire, à la fois banale et humaine, trop humaine, que de vouloir se développer, non ?
Vous savez, il y a, justement, dans les travaux scientifiques, il y a une courbe qui met en relation la consommation de tonnes équivalent pétrole à l'IDH. Et on se rend compte que, au-delà d'une
l'indice
de développement humain. Et on se rend compte que, au-delà d'une certaine consommation d'énergie, l'IDH n'augmente plus. Ce qui veut dire qu'il y a tout un tas de pays, et je vais revenir encore là-dessus, je suis désolé, mais il y a tout un tas de pays, notamment les États-Unis, même la France, qui pourraient baisser leur consommation d'énergie, et notamment de consommation de pétrole, et ne pas affecter leur qualité de vie. Ça, c'est une réalité. Donc ça, c'est des premiers efforts que l'on pourrait faire. Alors pourquoi on ne les fait pas ? Probablement il y a des lobbies, probablement parce que c'est plus simple de continuer la machine comme elle est partie aujourd'hui. Ce qu'a dit l'intervenant là, je suis assez d'accord de dire qu'en fait c'est quelque chose de pourri qui est au cœur de nos sociétés que l'on consomme.
Alain Touraine.
Alain Touraine. Mais c'était déjà le cas, même s'il n'y avait pas d'épuisement des réserves, même s'il n'y avait pas de climat, parce que le pétrole, on le prenait, c'était toujours issu, comme vous l'avez dit un petit peu, de rapports de force très forts. Quand nos compagnies allaient chercher du pétrole en Afrique, c'était avec des contrats de partage de production extrêmement défavorables pour les pays, ce qui expliquait en partie, je dis bien en partie parce que pas tout, la pauvreté de ces pays. Les rapports géopolitiques qu'il y a eu entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite sont extrêmement liés à la consommation très forte de pétrole des États-Unis. Donc depuis le début, la géopolitique, la base de l'extraction pétrolière est quelque chose d'extrêmement agressif et pas très beau à regarder.
Donc là, il y a... Vous évoquiez très rapidement au moins deux sujets, celui de la rente et donc de la maladie de la rente ou de la malédiction de la rente, comme on dit, et puis celui effectivement des relations, je ne sais pas comment les appeler, enfin géopolitiquement un peu incestueuses entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite.
Oui, par
Mathieu Ozano.
Entre autres, mais de manière plus générale, quand on parle géopolitique, quand on parle d'économie, on parle de puissance. Il y a un mot qui revient tout le temps, c'est la puissance. Mais la puissance qu'on comprend comme une notion presque anthropologique, en réalité, c'est une notion strictement physique et énergétique, puisque la puissance, c'est simplement un rapport entre l'énergie et le temps. Un watt, c'est un joule par seconde. Donc Nous, en tant qu'individus, en tant que organisation institutionnelle sous la forme d'une entreprise ou d'un État, nous n'avons su faire jusqu'à présent que maximiser l'effectuation de notre puissance, à condition d'avoir les ressources en énergie, qu'il s'agisse du pétrole saoudien pour l'économie américaine, une fois que l'économie américaine ne peut plus se contenter de sa propre production, qu'il s'agisse du pétrole du Gabon ou de l'Algérie quand on est la France et qu'on a des idées et qu'on a surtout un tempérament assez belliqueux. Voilà, l'effectuation de la puissance a toujours été maximisée. Et maintenant, on nous demande de l'optimiser, et ça, on ne sait pas très très bien faire. Bon, en tout cas, on savait le faire dans les sociétés agrestes, dans les sociétés agricoles, qui ont été. C'est le premier effet de l'abondance énergétique, c'est de détruire totalement les sociétés agrestes. Pendant les Trente Glorieuses, en France, on a éradiqué la culture agricole, qui est une culture précisément de l'optimisation. Si on lit, nous on n'a pas connu ça vraiment, mais si on lit le Cheval d'Orgueil, des monuments comme ça de la littérature anthropologique française, on comprend bien à quel point ils vivaient en quelque sorte littéralement sur une autre planète.
Voilà. J'entends bien. Thomas Porcher, vous avez évoqué très rapidement la rente pétrolière. Pourquoi, excusez-moi de la naïveté de la question, mais comment se fait-il que dans les pays qui tirent de l'exploitation du pétrole des revenus très forts, comment se fait-il que ces pays ne sortent pas du sous-développement? Mathieu Ozano a évoqué l'Algérie, vous avez évoqué le Gabon.
Je ne suis pas d'accord. C'est des pays, Thomas, Mathieu, ce sont des pays développés. L'Irak était un pays développé. Le Venezuela est un pays développé. Le Mexique est un pays développé. Simplement, la rente pétrolière, l'Algérie est un pays technologiquement développé.
Oui, technologiquement, mais enfin, si on prend l'IDH, on ne peut pas dire que...
Ah mais ça, ce sont deux notions différentes. Là, vous parlez de développement, industriel, physique.
Ah oui.
Donc des ports, des aéroports.
Oui. Il y a des infrastructures.
Des infrastructures. Bon. Et au-delà de ces infrastructures, la rente pétrolière, et ça, c'est c'est pour ça qu'on parle de merde du diable, excusez-moi l'expression, elle dépend de la rente pétrolière. Si vous, aujourd'hui, en Algérie, on achète la paix sociale massivement à une population désœuvrée, la chute des cours du baril va avoir des effets, est en train d'avoir des effets, me dit-on, délétères, terribles. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à sortir de ces subventions.
Ouais. Thomas Porchès, bon, sur ce alors, point.
C'est, en termes de pauvreté, si on regarde pauvreté humaine, c'est vrai qu'un pauvre sur deux vit dans un pays pétrolier. Ce qui est complètement fou, parce que quand on pense au pétrole, voilà, on pense au Qatar, au Koweït, aux Émirats Arabes Unis, et à tous ces pays qui sont très riches, mais qui ont en réalité une population plutôt relativement faible par rapport aux réserves immenses.
Faible numériquement,
voilà,
hein, vous voulez dire.
Voilà, et qui leur permet justement de redistribuer cette rente, même s'ils la redistribuent en partie, de permettre d'avoir des niveaux de vie relativement élevés. Quand on dépend du pétrole, alors il y a tout un tas de facteurs qui amènent ces pays à avoir des retards de développement. C'est que déjà, comme vous l'avez dit...
Donc c'est Nigeria, Angola, voilà, Algérie, Irak,
Iran. Le budget de ces pays, qui sont souvent des pays mono-exportateurs à plus de 90% du pétrole, dépendent des prix du pétrole. Donc quand vous avez un prix du pétrole qui est divisé par deux, vous avez un budget qui est divisé par deux. Enfin, vous voyez, nous, on parle souvent de notre budget qui, avec l'austérité, etc. Là, c'est des cures d'austérité extrêmement fortes et puissantes. La baisse des prix du pétrole divisée par deux, c'est une cure d'austérité pour tous les pays pétroliers du monde.
Qu'est-ce qui fait que dans ces pays, les dirigeants économiques et politiques... n'est pas, comment dire, fait en sorte de ne plus être soumis à ce point aux aléas de la conjoncture et du prix. Bah,
alors, donc, bah, pour investir sur le long terme, il y a de la corruption, c'est sûr, mais pour investir sur le long terme, il vaut mieux avoir un budget stable sur le long terme. Nous, on voit bien que dès que notre budget bouge un peu, c'est très grave. Eux, leur budget fluctue constamment. Alors, même s'il a augmenté ces 10 dernières années avant que ça baisse, il fluctue quand même constamment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, ces pays ne produisent pas, à part les pays de l'OPEP, ne produisent pas eux-mêmes leur propre pétrole. Ce sont des compagnies étrangères qui produisent, donc ils récupèrent qu'une petite partie de cette rente, en réalité. Vous savez, avant que l'OPEP nationalise, voilà, nationalise toutes ces compagnies publiques. C'était des compagnies américaines. Et les pays comme le Qatar, par exemple, récupéraient à peine 10% de la rente pétrolière. Les 90% allaient aux compagnies américaines qui l'exploitaient. Maintenant qu'ils ont des compagnies publiques, ils récupèrent la totalité de leur rente. Et il y a tout un tas de pays, notamment en Afrique, et une partie à un moment en Amérique du Sud, le Congo, le Gabon, etc., qui ont des compagnies publiques qui sont en réalité que des boîtes aux lettres, qui ne font pas de forage, et c'est des compagnies étrangères qui le font et qui leur donnent une partie de la rente. Donc ils ont moins de rente, une rente qui fluctue en fonction des prix, et puis après vous y ajoutez de la corruption, comme il y en a beaucoup comme il y a dans beaucoup de pays en développement, et vous avez finalement un développement qui est fragile.
Et là, Alain Touraine citait même le Mexique et le Brésil, dont on imagine pourtant justement que ce sont des pays émergents, où même s'il y a des problèmes de corruption, ils sont en partie jugulés. Vous confirmez
Il y a d'autres sources, y compris de devises, dans ces deux pays-là. Il n'empêche qu'effectivement, l'effondrement des cours du baril est en train d'avoir des effets délétères terribles.
Parce que le Brésil est un pays quand même anciennement industrialisé.
Oui, hein. Mais une croissance, l'effectuation d'une croissance, c'est toujours la pointe industrielle qui fait la croissance. Là, aujourd'hui, depuis plusieurs années, au Brésil, ce qui fait la pointe de la croissance, ce sont les forages offshore qui attiraient chaque année des dizaines de milliards de capitaux investis. Il y a un effet délétère. Moi, je dirais que l'effet fondamental est un... et se joue à travers l'avidité, on le voit au Venezuela, mais c'est pas forcément une fatalité.
Mais justement au Venezuela, on a longtemps donné le Venezuela dirigé par Monsieur Chavez, son parti vient de perdre les élections là ce week-end.
À cause de la chute des cours du baril, voilà, très probablement. Oui, enfin, en tout cas, ça a joué un rôle énorme.
Comme un exemple de pays qui utilisait sa rente pétrolière justement pour réduire les inégalités.
Mais il y a un deuxième phénomène dont on n'a pas parlé, c'est que tous ces pays, en particulier ceux du sud, la Norvège, ils n'ont pas eu une explosion démographique monumentale, ouais, avec une jeunesse...
Le Venezuela non plus.
La population du... Je n'ai pas les chiffres en tête du tout, mais je pense que la population du Venezuela, tout comme la population, je ne sais pas, de la Syrie, qui est un pays pétrolier, ou du Yémen, ou, a dû quintupler en deux générations. Ça pose... Thomas a raison, la fluctuation des cours du baril, c'est une difficulté immense. Et puis, l'explosion démographique induite en large partie, enfin en grande partie, en tout cas par l'abondance économique tirée de la manne pétrolière, ça crée des problèmes de gestion sociale de ce que c'est qu'un développement dans ces pays-là qui sont pratiquement, enfin en tout cas très difficiles à surmonter. Ajoutez à ça le déclin de la production, comme c'est le cas au Mexique et en Algérie aujourd'hui, et vous avez des bombes à retardement social, à mon avis, terribles.
Et pourtant, on a le sentiment que l'attrait pour l'exploitation pétrolière, ou pour l'idée que le pétrole serait un peu une baguette magique qui résoudrait plein de problèmes, est toujours très fort, puisque même récemment, le président Evo Morales, lui-même, en Bolivie, pour rester en Amérique latine, a autorisé l'exploration de nouveaux gisements d'hydrocarbures, y compris dans des parcs nationaux et des territoires indiens du pays. Écoutons-le, juste après avoir entendu l'un des chefs de village concernés, Feliciano Colodro.
On sait qu'ils vont venir explorer. Alors on veut demander au gouvernement qu'il prenne en compte les grands problèmes que nous apporte ce genre d'activité, surtout pour notre agriculture. Nous voulons préserver notre environnement. Nous ne voulons pas qu'il nous arrive la même chose qu'à d'autres villages, où ils sont même obligés d'acheter de l'eau pour boire. Nous allons exiger qu'ils viennent d'abord au moins parler avec nous, parce que nous n'avons jamais été consultés, alors que nous sommes quand même une partie vivante de cette région.
Nous, les pays du Sud, nous avons l'obligation d'explorer, de savoir ce que nous avons, combien nous avons sur notre territoire. Nous ne pouvons pas être les gardes forestiers des pays industrialisés. Et je tiens à dire aux ONG qui portent préjudice à l'exploration des richesses naturelles qu'elles s'en iront de Bolivie. Nous n'avons pas besoin d'institutions venues de l'étranger et qui viennent ici nous porter préjudice.
Alors, c'est surprenant. Comment expliquer ce revirement de...
C'est un reality check terrible. Evo Morales, ça fait partie des dirigeants qui, à un moment donné, ont eu pour ambition de supprimer les subventions au carburant ou denrées agricoles qui sont permises par leur rentrée de pétrodollars. Il a échoué. Ses propres partisans lui ont dit, mais jamais de la vie. Il faut surtout pas...
C'est la paix sociale.
Parce que c'est la paix sociale. C'est la paix sociale. Au Venezuela, depuis la chute des cours, il y a des émeutes dans tous les bidonvilles, forcément.
Thomas Porcher.
C'est vrai que c'est la paix sociale, c'est clair, parce que souvent les pays pétroliers, pour redistribuer la rente, ils créent des postes de fonctionnaires ou ils créent des bourses étudiantes, des choses comme ça. Et donc, finalement, ils créent un secteur qui dépend complètement de la redistribution de cette rente. Et quand cette rente diminue, vous avez des retards sur les salaires des fonctionnaires, etc. Et vous n'avez pas de paix sociale. Mais quand on va même plus loin, au tout début de l'histoire, vous savez, tous les pays, pour se développer, ont besoin de financement. Par des banques, mais aussi par le FMI, le prêteur de dernier recours. Et en général, les banques et même le FMI beaucoup plus clairement que les banques, leur demandent de se spécialiser là où ils ont un avantage comparatif. Et l'avantage comparatif, c'est le pétrole. Donc ils se spécialisent souvent à l'origine dans le pétrole, ça devient des pays mono-exportateurs qui n'arrivent pas à se développer, et donc ils n'arrivent pas à créer un secteur privé d'activité à côté. Le seul pays, je pense, c'est la Norvège, qui est l'exemple parfait où il y a un secteur privé et puis il y a un secteur pétrolier. Le Qatar essaye de rejoindre ça avec le plan Qatar 2030, où ils auront un secteur privé et le Qatar qui ne dépendra plus du pétrole. Mais il y a très peu d'exemples de pays qui ont réussi à se sortir de cette malédiction de mono-exportateur, mono-producteur de pétrole.
Donc on a le sentiment que cette dépendance au pétrole, elle est comme une malédiction à la fois dans les pays développés, dans les pays émergents, dans les pays producteurs. Et est-ce que vous pensez, l'un et l'autre, qu'il y a une relation forte de cause à effet entre l'importance de la planète pétrole sur notre propre planète et les conflits? Je vous pose la question à l'un et à l'autre parce que je sais évidemment, Thomas Porcher, que vous cherchez en ce moment à réfléchir sur le lien entre Daesh et le pétrole qui finance Daesh. Et vous, Thomas Ozano, vous insistez de façon, comment dire, très, très importante dans la fin de votre livre, Or Noir, sur la guerre en Irak, mais pas seulement depuis 2003, depuis 1991. Ouais. Et j'ai un peu envie de vous la présenter comme une guerre qui a été vraiment atroce. On ne s'est pas forcément rendu compte à quel point. Ouais. Et du coup, est-ce que ce conflit qui a duré 20 ans, qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts, quand on les met tous bout à bout, est-ce que pour vous, c'est une espèce de, comment dire, de cas très particulier, ou est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ça préfigure un peu, disons, le chaos mondial, certes localisé, qui pourrait être provoqué par la quête du pétrole et sa raréfaction dans les décennies qui viennent?
Un mot sur la Syrie rapidement, il y a un double... On peut voir les choses à une échelle strictement humaine. Il y a des communautés qui sont hostiles, qui s'affrontent, etc. Il y a un arrière-fond qui a trait très directement au pétrole. De deux manières. D'une part, le réchauffement climatique, qui a trait au pétrole, qui a trait aux ressources fossiles de manière générale. Avant la guerre civile en Syrie, vous avez eu la pire sécheresse qui a déclenché des migrations massives des campagnes vers les villes.
Massives.
Massives. Plus d'un million et demi de personnes sur une population de 20 millions de personnes qui se sont allées se réfugier parce que ils étaient confrontés à la pire sécheresse qu'on ait jamais vue dans ce pays-là, qu'on ait jamais enregistrée en tout cas. Et cette sécheresse est directement liée pour les climatologues, en tout cas correspond exactement à ce que disent les modèles. Ça, c'est un premier problème. Le second problème, on l'a évoqué tout à l'heure et on le connaît beaucoup moins bien et je pense qu'on devrait beaucoup plus l'explorer, c'est le pic pétrolier. Il se trouve que la Syrie est a été un producteur pétrolier de second rang, relativement important, dont le pétrole était la première source de devises avec le tourisme et dont la production, pour des raisons bêtement écologiques, bêtement physiques, s'effondre depuis 2003. Et vous avez le même cas avec le Yémen, autre pays qui s'effondre actuellement, un pays très pauvre, dont la seule ressource de devise est le pétrole, et sa production s'effondre. Voilà. Alors maintenant, rapidement, on pourrait y passer beaucoup de temps, mais sur ce qui se passe au centre de la planète pétrole, au centre de cet échiquier, c'est-à-dire le golfe Persique, il y a très clairement une stratégie de long terme de la part de toutes les grandes puissances, et en particulier des États-Unis, pour mettre la main sur cette plus belle source mondiale d'énergie abondante et pas chère qu'on appelle le pétrole, qui est le golfe Persique. Et ça n'est pas du tout un hasard de voir émerger une famille comme une dynastie, comme la dynastie Bush, et de la voir extrêmement proche de toutes les avancées géostratégiques des États-Unis dans cette région du globe. Depuis, vous parlez de 91, mais en réalité, ça remonte encore plus loin. Ça remonte à 1980 et la guerre Iran-Irak, dans laquelle on voit les États-Unis jouer un rôle extrêmement trouble qui consiste à désavantager successivement et à changer d'alliance entre l'Iran, puis l'Irak et retour à l'Iran, puis ainsi de suite. Jusqu'au point où les États-Unis, à l'époque, donnaient des photosatellites truqués aux deux camps pour maximiser l'effet mortifère de leur affrontement, de manière, et ça a été dit pratiquement explicitement par Bush père, de manière à ce que les États-Unis perdurent en tant qu'hégémone ultime de la région. Tout simplement, bah voilà, c'est économiquement, c'est la région, le golfe Persique, est la région stratégiquement la plus importante du monde, c'est clair et net. Et c'est une poudrière aujourd'hui.
Thomas Porcher ?
Bon, je suis entièrement d'accord. Et de manière générale, on voit de toute façon, dès qu'il y a une ressource, ça crée des tensions, hein, même au niveau local. Hein. Vous l'avez vu, même sur des pays qui ont finalement très peu de production. Le Tchad, c'est une production 100 000, 150 000 barils par jour. C'est rien du tout. Et ben, il y a quand même c'est un pays qui a été en guerre, notamment à cause de ces ressources pétrolières. Le Congo, ça a été pareil. Vous regardez Sao Tomé Principe, qui est une petite île, on a trouvé du pétrole. Il y a des fortes tensions depuis qu'il y a du pétrole. Donc vous voyez, à tous les niveaux, dans des pays pauvres, qui ont des institutions plus fragiles, où il peut y avoir des guerres au niveau local, ou même des débats très bousculés qu'on a eu chez nous avec le pétrole et le gaz de schiste. Donc partout où il y a de la ressource pétrolière, il y a forcément des tensions qui peuvent aller parfois jusqu'à des guerres.
Il y a un lien littéral entre volonté de puissance et guerre. Et la source de puissance première, jusqu'à présent, c'est le pétrole. La guerre, la Seconde Guerre mondiale et dans ces grands mouvements stratégiques qu'on pense à Stalingrad ou qu'on pense à l'enjeu de ce qui est devenu l'Indonésie pour le Japon, c'est en partie une guerre du pétrole.
Il y a cet objectif-là. J'imagine que la COP ne peut pas le faire, enfin ne peut pas le faire au sens où c'est inenvisageable dans une COP, y compris celle qui se tient à Paris, en dépit de tout ce que les politiciens français nous expliquent sur le fait que ça va être quelque chose de formidable. Ça serait très improbable, on va le voir d'ici une demi-heure sans doute. Est-ce que l'idée de restreindre ou d'interdire, ou ne serait-ce que d'arrêter les subventions au secteur pétrolier, ou de restreindre et d'interdire l'exportation d'hydrocarbures, l'exploitation de nouveaux gisements, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît une idée totalement farfelue ou qui pourrait arriver selon certaines conditions? Est-ce qu'il faut l'envisager et
Ce serait la meilleure idée si aujourd'hui on commençait à prendre vraiment, comme j'ai dit, à mettre cette contrainte climatique au centre et qu'on se dise, voilà, on a tant de réserves, combien on pourra en utiliser de ces réserves-là? Alors, il y a des études qui montrent qu'il faudrait laisser 2/3 sous terre de ces réserves d'énergie fossile. Et ça signifierait, si on prenait qu'une petite partie de ces réserves, d'arrêter d'aller chercher d'autres pétroles et d'aller forer des pétroles non conventionnels. Et ça nécessiterait également de mettre au centre de la balle les énergies renouvelables. Mais
quand vous disiez tout à l'heure, tout à fait au début de l'émission, qu'il y avait que le secteur des hydrocarbures était subventionné de façon très très importante.
Oui. 10 millions d'euros par minute dans le monde.
Est-ce que ça peut s'arrêter? Et si oui, comment ?
Pour que ça s'arrête, faudrait que, je sais pas, tout le monde soit frappé d'un seul coup d'un amour pour l'autre et qu'on vive dans le monde des bisounours, mais ça ne se passera pas. Enfin, parce que une grosse partie de ces pays tirent de l'argent du pétrole des revenus importants et nous en avons besoin. Et notre système, on n'a pas l'air, nous, je finis là-dessus, je suis désolé, on n'a pas l'air, nous, de vouloir changer ce système. On signe des traités de libre-échange avec des pays à 12 000, 15 000 kilomètres sans aucune clause sur le climat. Donc nous ne sommes pas exemplaires, on n'a pas envie de chanter. Certains pays tirent de l'argent de cette rente pétrolière. Donc j'imagine qu'il ne sortira pas de la COP21 quelque chose de révolutionnaire.
Un dernier mot.
L'objectif des engagements des États, c'est d'arriver à quelque chose qui serait de l'ordre d'un réchauffement de 3 degrés. Si,
ce qui est déjà trop.
Ce qui est déjà beaucoup trop. Et si ce qui a été promis est effectivement réalisé. Même l'Europe n'y parvient pas aujourd'hui.
On en reste sur cette évocation pas très optimiste. Je prie tous les auditeurs de bien vouloir nous en excuser, mais c'est ainsi. En tous les cas, cette émission est arrivée à son terme et vous pouvez la prolonger avec une double lecture. D'une part, le déni climatique de Thomas Porcher et d'autre part, Or Noir de Mathieu Ozano qui tient aussi un blog Oilmine sur le site web du journal Le Monde. Donc Thomas Porcher, Mathieu Ozano, merci beaucoup pour vos précieux éclairages. Les liens vers vos sites internet et vos publications sont accessibles depuis la page de Planète Terre sur France Culture. C'était La Planète Pétrole. Luc-Jean Reynaud, Jean-Frédéric, Catherine Madure et la documentation sonore nous ont accompagnés en régie et pour la préparation de cette émission. Émission qui, comme les précédentes, est en ligne 1000 jours et en podcast 1 an. Vous pouvez les retrouver sur le site web de France Culture. Vous pouvez les suivre et les commenter en postant vos messages sur la page planétaire de France Culture et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Vous pouvez également d'ailleurs converser avec Thomas Porcher et avec Mathieu Ozano qui ont tous les deux un compte Twitter. Demain à 14h, Aurélie Luneau présentera comme chaque jeudi la Marche des Sciences. Ça sera aussi une émission en écho à la COP21, cette fois vue d'Australie.